vous m'en direz des nouvelles. Jean-François Cadet.
VMDN, toujours avec Olivier Renaudot, conservateur chargé du département ancien au musée de l'armée, pour l'exposition Mousquetaires qui s'y déroule jusqu'au 14 juillet. Alors on le disait tout à l'heure, Olivier Renaudot, c'est vrai que dans l'imagerie populaire, et on va y revenir, on associe toujours les mousquetaires à l'épée. Pourtant, mousquetaire, ça vient de mousquet. Le mousquet, c'est une arme à feu. C'est même une arme à feu d'un assez gros diamètre.
Oui, c'est une arme à feu.
C'est pas une arme légère.
Non, c'est une arme de gros calibre qui pèse bien 5-6 kilos. D'ailleurs, pour l'utiliser, on ne peut pas l'utiliser à cheval.
À cause du recul.
Et puis, c'est une arme qui est assez difficile à manier. Et en plus, compte tenu de son poids, on est obligé de l'appuyer sur une fourquine, qui est une sorte de petite fourchette, si vous voulez, qui sert à garantir, en fait, la précision du coup, tout simplement.
Et pour l'époque, c'était une arme particulièrement dangereuse?
C'est une arme dangereuse parce qu'en fait, c'est une arme qui est calibrée pour pouvoir percer les armures et les cuirasses. Puisque une grande partie de l'infanterie est encore cuirassée à cette époque. Il y a des corps de piquiers qui ont une armure. Donc, le mousquet est en fait conçu pour ça. C'est une arme qui fait 19 mm de calibre. Enfin, ça vous donne une idée de sa puissance. Mmh. Mais on l'utilise à pied. On l'utilise pas à cheval.
Alors, faut pas être trop technique, mais enfin, quand même, dans l'exposition, il y a des mousquets. Il y a des arquebuses, il y a des pistolets. Alors, expliquez-nous un peu la différence entre les trois.
Le pistolet est une arme de cavalier. C'est une arme courte que l'on peut mettre dans les fontes de la selle, c'est-à-dire dans les pochettes en fait que l'on a à l'avant de la selle du cavalier. Donc là, c'est une arme assez habituelle d'un cavalier. L'arquebuse, par contre, est une arme qui est souvent utilisée à cette époque à la chasse ou comme une arme de plaisance. C'est en général une arme de petit calibre avec un mécanisme assez délicat. C'est plutôt une arme de détente, je dirais, plus qu'une arme de guerre.
Oui. Parmi les pistolets, il y en a qui sont assez étranges, hein, que vous exposez, par exemple, il y en a un qui est un pistolet à trois canons.
Alors, c'est c'est un peu un arrosoir. c'est une de ces armes à système que Louis XIII affectionnait. Il aimait beaucoup les mécanismes d'arquebuserie un peu ingénieux, voire un peu expérimentaux. Je dis expérimentaux parce qu'on n'est pas du tout sûr que ce genre d'arme avait vraiment une efficacité réelle. Mais ce sont des armes qui étaient un petit peu des chefs-d'œuvre faits par des maîtres arquebusiers qui lui étaient offertes, dont ce pistolet à trois canons qui sont répartis en pas de doigt. Donc, quand vous tirez le premier coup, vous videz les deux premiers canons et normalement le deuxième coup permet de tirer avec le troisième canon.
Donc on tire pas les trois balles en même temps?
Non, on tire pas les trois balles en même temps. En termes de précision, par contre, c'est assez aléatoire.
J'imagine. Alors l'épée dans tout cela, finalement, quel était l'usage que les mousquetaires en faisaient?
Alors, à vrai dire, pour un soldat, c'est plus une arme d'autodéfense, c'est-à-dire que en général, on commence par se battre à coups de mousquet. Quand on n'a plus ses charges de poudre, on continue à coups de crosse en général, et l'épée, c'est vraiment l'arme ultime, l'arme que l'on va utiliser comme arme de défense personnelle, en quelque sorte. Ça, c'est pour le domaine guerrier. Par contre, il y a évidemment toutes les occasions où le mousquetaire, qui est un gentilhomme, doit défendre son honneur et utiliser évidemment l'épée dans un contexte de duel.
Et pour proposer des duels ou des combats singuliers devant les caméras de cinéma ou de télévision, il n'y avait pas de secret, il faut apprendre l'escrime. Et pas n'importe quel escrime, l'escrime artistique avec un maître d'armes comme vous, Michel Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc maître d'armes, maître expert d'escrime artistique et de spectacle, président de l'association Les Lames sur Seine, une association créée en 1998. C'est une école qui fait partie de la FFE, la Fédération Française d'Escrime, et de l'Académie d'Armes de France, dont vous êtes d'ailleurs également le président. Vous avez vous-même été champion de France et champion de France d'escrime artistique, discipline que vous présentez dans un DVD qui vient de sortir, DVD que les Lames sur Seine ont produit.
Bienvenue au château de Breteuil et dans le monde de l'escrime artistique et de spectacle. L'escrime artistique et de spectacle est ni plus ni moins que l'escrime de cap et d'épée, utilisé dans les films, les pièces de théâtre et les romans du même nom. L'escrime artistique associe activité physique et côté comédien, le tout incluant une dimension historique très prononcée.
extrait donc de ce DVD qui s'intitule L'escrime artistique à la rapière. Et là, il y a un autre mot qui arrive dans la conversation, c'est le mot rapière, Michel Olivier. Alors, c'est quoi une rapière? C'est une épée? Quelle est la différence entre l'épée, le fleuret, le sabre et la rapière?
La rapière est une épée, effectivement, mais qui est apparue au XVIIe siècle, fin du XVIe exactement, et qui nous vient d'Espagne. Donc c'est une rapière qui avait différentes formes. C'est de l'arme typique des mousquetaires que l'on voit dans tous les films KPP que vous pouvez voir. Et c'est une rapière qui au départ avait des grandes branches entrelacées, où on cachait la main. Mais bien sûr, elle n'était pas suffisamment sécurisée puisque la main était touchée. Donc les Espagnols ont trouvé cette espèce de tasse, la tazza, en fin de compte, dans lequel c'est un bol renversé dans lequel on cache la main. Et résultat, la rapière a traverser la France, est arrivé en France à l'époque des mousquetaires, et c'est vraiment l'arme de duel par excellence que l'on trouve à cette époque-là.
Alors, il y a des rapières dans l'exposition de l'hôtel des Invalides, et on est frappé effectivement par les différences de garde et de coquille. Hein. Quelles sont les plus belles pièces que vous exposez, Olivier Renaudot?
En fait, nous avons quelques épées françaises qui sont assez rares, à vrai dire, qui sont des épées à branches que Michel Olivier vient d'évoquer actuellement. Et plus on avance dans la première moitié du XVIIe, plus effectivement la main du combattant va être protégée par des coquilles. En fait, il faut bien comprendre qu'on n'utilise pas la même épée quand on se bat à la guerre et quand on se bat dans des occasions plus particulières comme les duels. À la guerre, on a en général une épée relativement courte qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 10, guerre plus, avec une lame assez épaisse à double tranchant. Par contre, quand on est dans le domaine du duel, on peut avoir à cette époque des armes qui dépassent 1 mètre 20, voire 1 mètre 40, voire même, c'est un exemple que nous présentons dans l'exposition, mais c'est assez exceptionnel, 1 mètre 60.
Ah oui, c'est quand même impressionnant.
C'est-à-dire une allonge, en fait, énorme. Ce sont des lames sans tranchant, mais qui sont de véritables poinçons qui servent, en fait, à clouer l'adversaire au sol,
ouais,
littéralement.
Ouais. Mais pour revenir à la coquille, Michel Olivier, ouais, on voit effectivement ce côté, très, on va dire, très ciselé, très beau, etc. C'était une dimension purement de prestige que ces coquilles, ou ça avait une vraie dimension guerrière, une vraie dimension défensive ou offensive?
Non, la coquille avait une dimension guerrière pour se cacher la main, c'est ce que vient de dire Olivier. Mais de l'autre côté, toute la partie ciselée de la coquille, c'était une arme de prestige, une arme de collection, une arme qu'on aimait avoir, une arme qu'on faisait à sa main, une arme qu'on faisait à son type de duel.
C'est un petit peu comme un violon pour un luthier, quoi.
Exactement,
c'était un petit peu ce même processus-là. Ouais. Alors vous, Olam sur scène, on peut vous voir dans des spectacles aussi, hein, ouais, puisque l'association monte des événements publics ou privés, souvent d'ailleurs avec la collaboration de plusieurs châteaux, et il y en a beaucoup à travers la France. Par exemple, vous avez monté Les Trois Mousquetaires, évidemment d'après Dumas, Le Bossu d'après Féval, Le Capitaine Fracasse d'après Gautier, ou encore Cyrano.
Tous ces messieurs, à la mine hautaine, ce sont donc les fameux...
Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Castel, jaloux.
Prêteurs et monteurs de Saint-Vergogne, ce sont les cadets de Gascogne, parlant blason, lambelle, bastogne, tous plus nobles que des filous.
Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Castel, jaloux.
Moustache de chat, dans de loup,
pendant la canaille qui grogne, un aigle, jambe de cigogne.
Ils vont coiffer d'un vieux vigogne, dont la plume cache les trous.
Allez, œil d'aigle, jambe de cigogne, moustache de chat, dans de loup.
Allez,
Sont leurs
sobriquets
les plus doux.
De gloire, leur âme est ivrogne, perce-bedaine et casse-trogne.
Dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous.
Perce-bedaine et casse-trogne, dont leurs sobriquets les plus doux.
Voici les cadets de Gascogne
qui font cocu tous les jaloux.
Oh, femme, adorable Caronne, voici les cadets de Gascogne!
Que le vieil épouse en frogne, son éclairon, chantez
coucou! Voici les cadets de Gascogne qui font comme tous les jaloux! Hey, 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 hey.
Voilà, ce sont les cadets de Gascogne, a écrit Edmond Rostand dans Cyrano. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les mousquetaires étaient souvent du Béarn ou de Gascogne, Olivier Renaudot? Il y a une raison particulière.
Alors, il y a une raison particulière, c'est une tradition de service déjà qui date de l'époque d'Henri IV. La noblesse était du coin. La noblesse gasconne est une petite noblesse pauvre souvent. Et en fait, les cadets, c'est un nom gascon d'ailleurs. C'est un terme gascon en fait qui s'est imposé dans la langue française. En fait, dans le français du XVIIe siècle, on disait puiné. Le second né ou le troisième né, c'est le puiné. Et en fait, en Gascogne, on l'appelle le cadet. Et ce cadet n'hérite pas. C'est son aîné qui va hériter de les terres pour éviter de morceler des exploitations qui sont déjà minuscules en réalité. Donc en fait, il a que deux solutions pour vivre. Soit il se fait religieux, soit en fait il prend du service, c'est-à-dire qu'il va à l'armée. Et donc le parcours que fait notre D'Artagnan dans Dumas, en fait, des milliers d'autres jeunes Gascons l'ont fait. Il monte à Paris avec un mauvais cheval et une bourse plate et une lettre de recommandation. Et ils vont se faire engager donc dans un corps qui peut être les mousquetaires, qui peut être les gardes françaises, etc.
Et vous-même, Michel Rieu, vous avez monté plusieurs spectacles justement en Gascogne, ce qui prouve que la tradition que les mousquetaires finalement ont instillée est toujours vivace dans ce coin de France.
Oui, absolument. On est allé beaucoup travailler, enfin, faire des spectacles en Béarn. C'est là où sont issus évidemment Porthos, Aramis et Athos. Et puis à Lupiac, qui est la ville de naissance d'Artagnan, où on est tous les ans, pour faire revivre l'histoire de D'Artagnan dans ce petit village du Gers.
Alors vous avez travaillé avec les élèves de l'Académie des Sports Équestres de Bartabas aussi, mmh, avec des comédiens comme Matt Pokora. Là, on est dans un style totalement différent pour les duels de Robin des Bois, la comédie musicale au Palais des Congrès. Qu'est-ce que vous leur apprenez à ces comédiens-là qui, à la base, ne sont pas forcément des escrimeurs?
Ce ne sont pas des escrimeurs. Après, ça dépend de leur qualité physique. Avec M. Pokora, ça a été simple parce qu'il est très physique, donc ça a été vite. Puis les chorégraphes, parce que un duel d'escrime artistique, c'est une chorégraphie. Ça veut dire que c'est pas du tout le duel avec un adversaire. On a un partenaire, on apprend ce que lui va nous faire, et moi je sais ce que je vais lui faire, il sait ce qu'il va me faire.
Donc, il n'y a pas vraiment de hasard, quoi. C'est...
Heureusement, on sera mort depuis longtemps.
Oui.
Donc non, il n'y a pas de hasard, c'est vraiment une chorégraphie, c'est comme une partition de musique, à différence près, c'est que si en musique, il y a un couac, ça fait un canard, là s'il y a un couac, ça va évidemment faire une tache rouge sur le partenaire, ce qui est un petit peu dommage.
Mais ce sont des vraies armes.
Ce sont des vraies armes, absolument pas mouchetées, non, c'est des vraies armes, pas mouchetées, on travaille en sécurité parce qu'il y a une notion de distance, il y a une notion aussi d'amplitude des coups et de sécurité pour arrêter son coup où se passerait quelque chose, mais ce sont vraiment des véritables armes. Bien sûr, nous, les duels vont durer 1 minute et demie, 2 minutes, voire 3 minutes. À l'époque, c'était duré 20 ou 30 secondes ou 15 secondes. Il y avait un mort ou un blessé tout de suite, c'était forcément évident.
Ouais. Donc ce sont des vraies armes, mais en même temps, il peut y avoir des cascadeurs aussi dans les films. Ce sont
évidemment
pas forcément les comédiens professionnels qui jouent ces scènes-là.
Non, mais non, on peut y avoir des doublures. Il y a pas mal de doublures dans les films avec des cascadeurs. Il y a une équipe de cascadeurs chez Michel Carliès, donc le maître d'armes, qui travaille beaucoup sur le cinéma et qui font beaucoup de doublures sur des vedettes qui peuvent pas prendre l'arme ou qui pour envie, pour raison de sécurité évidemment et d'assurance, et qui vont doubler les comédiens à ce niveau-là.
Michel-Olivier, cette escrime artistique que vous défendez, que vous apprenez à vos stagiaires, c'est une escrime à la française.
Absolument, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a retrouvé dans les traités, on n'a pas inventé la technique, c'est la technique vraiment qui existait à l'époque. Encore une fois, c'est pas du geste historique, c'est simplement de l'escrime de spectacle. Donc le geste est le même, simplement il a été amplifié pour plusieurs raisons. D'abord pour sécurité face au partenaire, qu'il voit où le coup va arriver. Et puis une question visuelle par rapport au public. Parce qu'un geste historique, ça va être très rapide, on va pas voir le geste. Ce qui est important, c'est que le public rentre avec nous dans le spectacle. J'insiste bien, c'est du spectacle.
Oui.
Et donc l'escrime artistique, là je vais quand même dire quelque chose de très important, fait partie de la Fédération Française d'Escrime.
Oui, alors c'est la question que j'allais vous poser, c'est du sport ou c'est...
Non, c'est un sport.
C'est de l'art.
C'est les deux. C'est un sport qui va mélanger aussi l'art et l'histoire et la culture.
Il y a des championnats de France d'ailleurs, il y a des championnats du monde
d'escrime artistique, bien sûr, où on est noté comme un peu patinage artistique, il y a une partie technique, une partie artistique. Mais l'apprentissage d'escrime artistique se fait par le biais de la Fédération Française d'Escrime, par le biais de maîtres d'armes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'escrime artistique est une discipline à part entière de la Fédération Française d'Escrime, au même titre que l'escrime sportive, l'épée, le fleuret et le sabre. Et donc, cet enseignement doit se faire par le biais d'un maître d'armes formé à l'escrime artistique, et pas comme on voit certaines associations dans lesquelles les gars viennent faire 2-3 stages d'escrime et commencent à enseigner l'escrime artistique derrière.
Oui.
On va assister là à une escrime qui va être de moins bonne qualité et surtout à des problèmes de sécurité énormes.
Alors, la façon de se tenir est extrêmement importante. Il y a la dimension panache, ça aussi,
ça
fait partie de l'escrime artistique. Alors, c'est quoi le conseil que vous donnez pour avoir justement ce panache, cette élégance du bretteur qui tenait extrêmement à cœur des mousquetaires et de leurs contemporains?
Il faut avoir un port, c'est-à-dire qu'à partir du moment, quand je dis le port, le port physique, c'est-à-dire que quand on va avoir une rapière à la main, il y a évidemment un état qu'il faut se mettre dans sa tête, c'est-à-dire qu'on est un héros de KPDP, c'est tout bête, héros de KPDP, et prenons tous l'image d'un D'Artagnan ou d'un Cerveau de Bergerac, il est pas voûté, il est pas mal en garde.
On est fléchi sur les jambes.
Il a une prestance, fléchi sur les jambes pour l'équilibre, bien évidemment. Et puis après, il va donner ses coups avec énormément de panache, énormément d'intensité et puis de beauté gestuelle. C'est ça qui est très important.
C'est quoi le panache pour les mousquetaires, Olivier Renaudot?
Ah, le panache, ce serait en fait la capacité à défendre son honneur et sa prestance de jeune gentilhomme en toutes circonstances, surtout si on n'a rien dans les poches. En fait, c'est un peu ça. Parce que c'est le cas de beaucoup de ces jeunes Gascons, en réalité. C'est que, en fait, ils n'ont guère que leur prestance et guère que leur morgue de gentilhomme à vendre. Ouais.
Parce qu'à l'époque, l'escrime faisait partie de l'éducation, de la bienséance, enfin, au même titre que les formes d'art, d'une façon plus globale, au même titre que la musique ou que l'équitation.
Ou que l'équitation, ou que la danse. Que la danse, d'ailleurs.
Ils apprenaient la danse, les mousquetaires.
Parce que la danse fait partie de ces disciplines qui assurent le maintien du corps, tout comme l'escrime en fait. Et il y a beaucoup de liens entre les deux. Et on parle souvent de l'interdiction des duels, qui était donc celle effectivement en vigueur à l'époque de Louis XIII et de Richelieu. Oui. Mais en réalité, pour tous ces jeunes gentilshommes qui montaient à Paris pour se faire remarquer, défendre leur honneur, l'épée à la main, c'était une nécessité vitale. Car s'ils voulaient sortir du rang et s'ils voulaient arriver à des honneurs, à des charges, etc., il fallait qu'il se fasse remarquer de façon plus ou moins tapageuse. Donc il y a une sorte de schizophrénie et de paradoxe en fait entre cette interdiction des duels et puis cette petite gentilhommerie qui a besoin de se faire voir en quelque sorte.
Oui, avec toujours cette élégance, et l'élégance du bretteur dans l'exposition, elle est évoquée à travers des positions, des postures de dos.
De dos.
Si l'élégance était forcément dans ce sens-là et pas dans l'autre.
Le vêtement de l'époque avec ses épaules, la carrure assez large et la taille bien prise, en fait, a beaucoup tenté les artistes. Et effectivement, ils ont beaucoup représenté ces gentilshommes bretteurs de dos. Donc, on s'est amusé à faire une petite section sur le sujet, bon, en montrant aussi des vêtements contemporains, d'authentiques, les rares vêtements du XVIIe siècle qui nous restent. Et souvent, les gentilshommes de l'époque, d'ailleurs, ont imité le débraillé militaire en portant des bottes à éperon, y compris pour des activités tout à fait civiles et absolument pas liées au cheval. Il y a une sorte de goût du débraillé soldatesque, en quelque sorte, dans la mode noble de l'époque.
Oui, question de Béotien, Michel Olivier, le costume hein, que vous faites porter, j'imagine, au moment où vous donnez des spectacles, est-ce que c'est pas un handicap, précisément, pour l'escrime? Si on parle des bottes, si on parle du chapeau, si on parle... alors, c'est plus pas la chasuble, la casaque, voilà, merci.
C'est sûr que ça peut être handicapant. C'est sûr qu'on est plus à l'aise en pantalon de survêtement et en tennis, ça c'est clair. Donc on apprend en salle d'armes avec une tenue de sport, et après, bien évidemment, on apprend aussi à revêtir la casaque, la chemise ample, le pantalon, les bottes, le chapeau, la perruque.
Oui, c'est lourd.
Aussi, c'est lourd.
Et encore, vous n'avez pas d'armure.
Et on n'a pas d'armure, parce qu'on n'est pas à la même époque, mais c'est vrai que c'est lourd et que ça peut être handicapant dans un spectacle, parce que quand on fait des mouvements, le chapeau peut gêner, peut tomber, ça peut déconcentrer le partenaire ou les partenaires. Donc ça s'apprend. On l'apprend vraiment à travailler avec tout le costume qui est adéquat. Maintenant, les costumes qu'on fait nous, c'est des costumes qui retracent les costumes de l'époque, mais qui ne sont pas les costumes vraiment d'origine. Ce que vous disiez, Olivier, tout à l'heure, c'est des costumes qui sont pris à la taille et tout. Nous, on a fait un peu plus large, parce que quand on fait une roulade, hein, quand on se baisse, si le pantalon craque ou si le costume craque, ça fait désordre. Donc, on essaie d'être à l'aise dans des costumes, en retraçant quand même le côté historique.
Thank you. Une marche triomphale composée par André Danican-Philidor, qui fut, je parle sous votre contrôle, Olivier Renaudot, au bois des mousquetaires dans les années 1667-1677. Parce qu'il y avait aussi des musiciens.
Il y avait aussi des musiciens. C'était aussi un corps qui participe au faste de la cour, donc les musiciens y jouent un rôle important.
Bon, peut-être qu'André Danican-Philidor a connu le fort Saint-Sébastien, sur la plaine d'Achères, près de Saint-Germain-en-Laye.
Et il est possible qu'il y ait stationné, effectivement, oui.
Oui, parce que c'est un fort dans lequel il y a eu des fouilles archéologiques récemment, qui ont permis de retrouver quelques objets que vous exposez au musée de l'armée.
C'est une découverte récente qui donne un regard assez inédit sur la pratique de la guerre au XVIIe siècle. C'était en fait sur la commune de Saint-Germain, juste dans une boucle de la Seine. Et il se trouve que ce fort a été utilisé deux étés de suite, en 1669 et 1670, pour une sorte de vaste camp d'entraînement de l'armée française. Donc l'armée a construit des fortifications en terre et en fait les soldats se sont entraînés, sans doute sous le regard du roi, à prendre ces fortifications. Et donc on a aussi tout un tas de témoignages, beaucoup de mobilier donc qui permet d'avoir une idée de la vaisselle par exemple dans laquelle mangeaient les soldats du roi, et ça c'était des découvertes plutôt inédites. Mais alors ce qui est le plus intéressant, c'est que nous avons mis cette fouille archéologique, cette découverte faite par l'INRAP en relation avec un des épisodes importants dans notre histoire, qui est le siège de Maastricht, au cours duquel D'Artagnan a perdu la vie.
La guerre de Hollande,
et il se trouve que Il semble, c'est une hypothèse, mais il semble que le site d'Achères ait été choisi parce que la topographie du lieu correspondait à peu près exactement à celle de la ville de Maastricht, que l'on allait assiéger 4 ans après. En fait, on aurait préparé le siège de Maastricht en grandeur réelle sur un terrain donc à côté des résidences royales, à côté de Saint-Germain-en-Laye où stationnait le roi, donc 4 ans avant que le siège n'ait lieu.
Et donc ils s'entraînent à Saint-Sébastien, ces mousquetaires, ils vont effectivement se retrouver à Maastricht. Alors, vous présentez dans l'exposition une sorte de tranchée, hein, le visiteur peut rentrer un peu en zigzag comme ça dans cette tranchée et découvrir les explications de la stratégie à la Vauban, quoi.
De Vauban lui-même, puisque Vauban avait mis en place, et notamment on l'a expérimenté à Maastricht pour la première fois, tout un système de tranchées d'approche, effectivement des tranchées en zigzag, et ces tranchées sont reliées également par ce qu'on appelle les parallèles, qui sont des tranchées où on peut installer des batteries d'artillerie, où on peut également masser des troupes pour éviter une riposte de l'adversaire, une sortie de l'adversaire. Et en fait, cette tactique a été testée en grandeur réelle à Achères, sur le fort Saint-Sébastien, donc à côté de Saint-Germain-en-Laye, avant d'être appliquée sur le terrain, avec un énorme succès, puisqu'en fait, le siège de Maastricht n'a duré que 13 jours. Et c'est assez amusant d'ailleurs de le comparer au siège de La Rochelle qui a duré 13 mois, lui.
Oui, c'est pas tout à fait.
Il y a quand même un net progrès.
Et, mais énorme impact diplomatique à l'époque pour la France.
Énorme impact diplomatique parce que c'était une des places fortes de la Hollande et il est certain que c'est un siège qui a fait date. D'ailleurs, on le voit aussi à la masse énorme d'images de propagande qui ont été produites par les artistes français pour exalter la gloire de Louis XIV ayant pris la ville de Maastricht. Malheureusement, c'est au cours de cet épisode militaire que D'Artagnan a perdu la vie. Après, s'est exposé de façon un peu trop visible, en tout cas, avec 80 de ses mousquetaires.
Alors, ce corps des mousquetaires, il a été supprimé par le cardinal de Mazarin, dont on voit d'ailleurs un portrait dans l'exposition signé Philippe de Champagne. On connaît très bien celui de Richelieu, on connaît un petit peu moins celui de Mazarin. Pourquoi Mazarin supprime-t-il ce corps ?
À vrai dire, Mazarin était jaloux du capitaine du corps, qui était Monsieur de Tréville, le fameux Monsieur de Tréville que l'on voit dans les 3 mousquetaires. En fait, Mazarin voulait tout simplement la direction du corps pour un de ses alliés. Et en fait, le corps a été supprimé. Mais Mazarin n'a pas négligé tous les mousquetaires, puisque D'Artagnan, qui était à l'époque mousquetaire, en fait, est devenu un de ces gentilshommes ordinaires. Et D'Artagnan a été au service de Mazarin pendant une dizaine d'années.
Voilà. Et à la Restauration, en 1815, Louis XVIII rétablit le corps des mousquetaires. Et alors, la surprise dans l'exposition, le dernier mousquetaire, je ne sais pas, enfin, en tout cas, l'un des tout derniers mousquetaires, on le connaît bien en France, mais on ne sait pas forcément qu'il était mousquetaire. C'est Géricault. Le peintre, le radeau de la Méduse.
Le radeau de la Méduse, l'auteur du radeau de la Méduse. D'ailleurs, c'est pour aller voir le radeau de la Méduse, qui était encore dans l'atelier du peintre, qu'en 1824, donc 20 ans avant d'écrire les 3 mousquetaires, Dumas se rend au chevet de Géricault. Géricault était malade à l'époque, il était même mourant, à vrai dire. Et en fait, Dumas, qui était un jeune dramaturge à succès, mais qui était très loin d'imaginer qu'il allait un jour devenir un auteur mondialement connu grâce aux 3 mousquetaires, a rencontré, peut-être sans savoir, un des derniers de ses mousquetaires, puisque Géricault a abandonné ses pinceaux un court moment, pendant quelques mois en 1814, pour accompagner donc la maison du roi au moment du retour de Napoléon après l'île d'Elbe. Donc la maison du roi a dû fuir donc jusqu'en Belgique et Géricault a accompagné cette débâcle.
Voilà, et quand Dumas vient le voir, il est en train de peindre sur son lit Géricault et il est en train de peindre
sa main gauche. C'est le seul modèle qui lui reste sous la main.
C'est le cas de le dire. Et donc on voit la main gauche de Géricault dans l'exposition.
Géricault, donc qui est une de ses mains que Géricault a croqué sur son lit d'agonie.
Voilà, ce qui fait partie effectivement des objets et des œuvres particulièrement originales à voir dans cette exposition Mousquetaire. C'est donc au musée de l'Armée à l'hôtel des Invalides à Paris jusqu'au 14 juillet. Merci beaucoup Olivier Renaudot d'avoir été avec nous. Merci également à vous Michel Olivier de l'association Les Lames en Scène. Vous avez un événement particulier à nous annoncer
Il y en a plusieurs qui arrivent, oui. On va être le 8 mai au château de Breteuil, on va être le 17 mai sur la ville de Neuilly et le 25 mai au château de Vaux-le-Vicomte.
Merci beaucoup, voilà. Michel
Merci
Olivier.
À vous.
Demain, dans VMDN, nous serons avec l'écrivain Éric Orsenna de l'Académie française pour son livre Mali au Mali, publié chez Stock. On va donc totalement changer d'époque, mais croyez-moi, l'émission ne manquera sans doute pas de panache. Je vous m'en dirai des nouvelles.